Il fut fait suivant le vœu de Théophile. Le métropolitain de l'île de Chypre, réunissant ses suffragants en synode, leur dicta une formule de foi complète concernant Origène et ses fauteurs. Puis le décret synodal, accompagné des lettres encycliques des deux évêques, fut dépêché dans tout l'Orient. L'archevêque de la ville impériale, étant un trop haut personnage pour qu'on se contentât à son égard de la voie ordinaire de transmission, Épiphane voulut déléguer un de ses prêtres pour lui remettre la dépêche et lui exposer en même temps de vive voix la responsabilité qu'il encourait en protégeant des hérétiques condamnés. Toutefois, le délégué d'Épiphane n'eut pas l'occasion de partir. Théophile, qui possédait dans le port d'Alexandrie des moyens de communication bien autrement rapides et fréquents qu'on ne pouvait avoir à Salamine, prit les devants pour narguer l'archevêque. Il lui envoya l'encyclique d'Épiphane et les deux décrets synodaux avec ces simples mots de sa main. Les pièces ci-jointes sont importantes. Je t'engage à les méditer et à ne point fermer ton cœur aux avertissements du Saint-Évêque dont le monde chrétien écoute les décisions comme des oracles. Chrysostome, en ouvrant la dépêche et parcourant les pièces, n'y vit d'abord qu'une invitation de prendre part à une de ces disputes théologiques dans lesquelles Épiphane avait passé sa vie. Porté par caractère à l'application morale des principes évangéliques, il avait montré toujours peu de goût pour des discussions qui lui rappelaient trop les écoles des rhéteurs. Son premier mouvement fut donc de jeter là la dépêche en s'écriant « J'ai bien besoin en vérité de toutes ces belles choses pour agiter mon peuple, comme si mon devoir n'était pas de lui servir une autre nourriture en lui prêchant la parole de Dieu. » Toutefois, un remords le prit, et il relut les lettres avec attention. En réfléchissant sur cet accord singulier de Théophile et d'Épiphane, à cette alliance d'un homme pervers et d'un saint homme très simple, pour lui faire la leçon et tendre ainsi dire un lac autour de lui, il se montra inquiet. Puis après un moment de silence, il dit aux amis qui l'entouraient « Ces hommes-là veulent ma déposition, mais ils ne l'auront pas facilement. Je tiens à mon siège épiscopal parce que Dieu m'y a placé. » Il ajouta d'un ton plus doux « Mon plus cher souci sera toujours d'accomplir mon devoir jusqu'au bout. Puissais-je obtenir par là le pardon de mes fautes et le salut de mon âme ?» Il eut d'abord l'idée de ne point répondre, s'en remettant à Dieu, disait-il, des suites de tout cela. Il se décida plus tard à le faire, mais brièvement, modestement et sans aigreur apparente. Voici ce que contenait sa lettre. S'il est vrai qu'un concile doit se réunir sous peu à Constantinople pour examiner précisément les choses dont ces deux coévêques et frères daignaient l'entretenir, il attendrait ces débats. Convenait-il, quand l'Église allait décider, de prévenir sa décision en condamnant qui que ce fût ou en introduisant des nouveautés dans la foi? Il ne le croyait pas, et il remerciait du reste ses collègues de leur sollicitude à son égard. Le dédain qui perçait sous les termes prudents de cette réponse irrita Épiphane au-delà de toute mesure, et puisque le patriarche de Constantinople lui déniait l'autorité dogmatique devant laquelle s'était incliné celui d'Alexandrie, il résolut d'aller en personne l'admonester en face de son peuple dans la ville impériale et le ramener au devoir ou le déposer s'il le fallait en étouffant l'hérésie sous l'hérétique. Quand Théophile a pris cette résolution, à laquelle il n'eut jamais osé songer, il fut au comble de la joie, laissa partir Épiphane et resta. Ces préliminaires avaient traîné jusqu'à la fin de février ou au commencement de mars 403. Et c'était pour un vieillard de 80 ans, un rude et long voyage, que la traversée de Chypre à Constantinople, au plus fort des vents de l'hiver, qui rendent si dangereuse la navigation des Cyclades et le passage de l'Hellespont. Épiphane, néanmoins, arriva sans encombre en vue de Constantinople. Là, au lieu d'aborder au grand port, il prit terre dans une anse d'où il pouvait, en tournant la ville, gagner le faubourg de Laidomont et l'église de Saint-Jean-Baptiste, où il avait fait annoncer sa venue. Les faubourgs de Constantinople formaient depuis Théodose une espèce de zone neutre pour les communions religieuses. Ce prince, ainsi qu'on l'a vu, y avait relégué les églises du culte arien, d'autres dissidents s'y étaient établis, et c'est encore là que s'étaient réfugiés tout récemment les prêtres catholiques qui faisaient schisme avec l'archevêque. Grâce peut-être à la protection de l'impératrice qui semble avoir eu pour l'église de Saint-Jean une dévotion particulière, ce temple leur était resté ouvert et ils en composaient en majeure partie le clergé. Mais ce clergé, affichant pour le chef métropolitain une ardente hostilité, ne se recrutait guère que parmi des hommes qui professaient les mêmes sentiments. C'était donc au milieu d'un clergé schismatique qu'Épiphane venait faire son entrée à Laidomont. Reçu à l'église de Saint-Jean, dans un appareil presque triomphal, il y célébra les saints mystères et récita ensuite la collecte, qui était une prière suivie d'une allocution au peuple terminant l'office du jour. Il avait à peine achevé qu'on amena devant lui un jeune homme qui demandait à être ordonné diacre. Épiphane se trouvait dans une église étrangère. Il avait officié sans le consentement de l'évêque de la juridiction et commis en cela une contravention flagrante au canon, et par une irrégularité plus flagrante encore, il consentit à ordonner ce jeune homme qu'il ne connaissait point et pour lequel il n'avait pas non plus le consentement épiscopal. Ces considérations ne l'arrêtèrent pas. Prenant les ciseaux qu'on lui présenta, suivant l'usage, sur un plat d'argent, il coupa les cheveux au futur diacre et prononça sur lui la formule de l'ordination. C'était une nouvelle recrue dont se grossissait le parti ennemi de Chrysostome. Quand il eut fini, il prit le chemin de la ville au milieu des mêmes acclamations qui avaient accueilli son arrivée. À la porte d'or, celle par laquelle on communiquait dans les solennités publiques de Laidomont à l'intérieur de Constantinople, Épiphane trouva le clergé métropolitain que l'archevêque, informé de tout, envoyait au-devant de lui pour le recevoir. Chrysostome lui-même se tenait en face du palais épiscopal afin de saluer l'évêque de Chypre au passage et de l'inviter à prendre un logement sous son toit. Épiphane reçut froidement l'invitation, prétextant qu'il avait déjà un logement que lui avaient retenu ses amis, sur quoi l'archevêque insistant « Écoute, lui dit Épiphane, je logerai chez toi si tu me jures ici même d'excommunier les longs frères et d'interdire dans ta ville les livres de l'hérésiarque Origène. » Tu sais bien, répondit tranquillement l'archevêque, tu sais que nous attendons la prochaine réunion d'un concile qui doit s'occuper de ces matières. Il ne me convient pas de devancer ces décisions. Eh bien, s'écria Épiphane avec colère, s'il en est ainsi, je pars. Et rompant brusquement l'entretien, il fit signe qu'on le conduisit à la maison que les agents de Théophile lui avaient préparée. Le lendemain, de grand matin, Chrysostome, désireux d'empêcher une rupture, lui envoya plusieurs prêtres pour l'engager à prendre part aux prières qui allaient être célébrées dans la basilique épiscopale. « Je suis prêt à m'y rendre, leur dit Épiphane, mais à une condition, celle que j'exigeais hier de votre évêque et qu'il m'a refusée. Y consent-il aujourd'hui ? Les prêtres se turent et repartirent. De ce jour-là, les deux évêques ne se virent plus. La demeure d'Épiphane partagea dès lors avec celle de Graphie le triste honneur d'être un lieu de réunion pour les ennemis de Chrysostome. Les clercs expulsés, les prêtres mécontents y affluèrent. Sévérien, levant le masque encore une fois et rompant impudemment la paix qu'il avait jurée, s'y montra fort assidu. Antiochus, Ptolémaïs et Acacius de Bérée y tenaient avec lui le premier rang. Outre les recrues de la ville, on ramassait tout ce qu'on pouvait d'ecclésiastiques étrangers et d'évêques en passage. D'ailleurs, la célébrité du nom d'Épiphane suffisait pour attirer au conciliabule nombre de visiteurs en dehors de l'esprit de faction. Il faut rendre aussi cette justice au vieil évêque que, sauf les questions relatives à l'origénisme et à l'excommunication des longs frères, il passait assez légèrement sur les accusations personnelles dont on poursuivait le métropolitain. C'était la fausse idée que Chrysostome était origéniste, communiquait avec des origénistes et continuait à suivre dans ses enseignements l'hérésiarque contre lequel Épiphane avait fulminé tant d'anathèmes. C'était cette idée qui l'avait amené à Constantinople et continuait à nourrir son ressentiment. Sur le reste, il ne manifestait aucune passion. Cependant, les affaires de la cabale avançaient lentement. L'évêque de Chypre, n'ayant autour de lui que des ecclésiastiques ou des gens du monde déjà prévenus contre Chrysostome et convaincus à l'avance de sa culpabilité, tandis que celui-ci, appuyé sur le peuple, semblait dédaigner tout le reste, on résolut de s'adresser pareillement au peuple afin de l'attaquer dans son propre camp. Il devait se célébrer sous peu de jours une grande collecte à l'église des apôtres. C'était une occasion de catéchèse et de discours auxquels pouvaient prendre part les évêques étrangers assistant aux prières. Des meneurs imaginèrent d'y faire aller Épiphane, et là, le vieil évêque, en présence de toute la ville, entamerait l'historique de son long voyage. Il en exposerait les causes et l'insuccès. Il dirait quels efforts infructueux Théophile et lui avaient tenté pour démontrer par lettre à l'archevêque qu'il marchait et conduisait son peuple dans une voie de perdition, et comment, emporté par la charité, lui-même, Épiphane, malgré son grand âge, avait bravé les périls de la mer pour essayer sur ce prélat opiniâtre l'autorité de sa parole. Alors viendrait le récit de l'excommunication des longs frères et du synode d'Alexandrie, celui du synode de Salamine, où Origène et les origénistes avaient été anathématisés, puis les refus arrogants du métropolitain devant des injonctions verbales réitérées. La conclusion du discours devait être la déposition solennelle de Chrysostome pour l'honneur de Dieu et le salut des fidèles de Constantinople, s'il ne reconnaissait pas à l'instant sa faute et ne promettait de faire pénitence. Telle était la conspiration tramée pour frapper l'archevêque au milieu de son troupeau. Une fois le dessein formé, on se mit en mesure d'en assurer le triomphe en se composant un auditoire favorable, mais la chose fut ébruitée dans la ville. Elle parvint aux oreilles de Chrysostome qui, d'un coup d'œil, sonda le péril et s'écria, dit-on, avec indignation en parlant d'Épiphane, « Il faut que cet homme soit fou ou démoniaque pour oser de pareilles choses. » Et il donna l'ordre à son diacre Sérapion de l'empêcher d'entrer dans la basilique. Le jour de la collecte venue, et comme la foule curieuse accourait de toutes parts, Sérapion se plaça sur le seuil de la porte pour guetter l'arrivée d'Épiphane, qui ne tarda point à paraître en effet, escorté de quelques amis. Sérapion l'arrêta tout court. « Évêque, lui dit-il, voici ce que mon évêque à moi et l'évêque de ce lieu m'a chargé de te signifier. Tu te permets dans son domaine ecclésiastique bien des choses contraires au canon. D'abord, tu vas dans une de ses églises faire une ordination sans son aveu, puis tu viens t'emporter d'une autre pour y officier malgré lui. » Tu te conduis comme si tu étais son évêque et comme si lui n'était rien devant toi. Eh bien, il veut que cela cesse. Et si tu persistes, il fait retomber sur ta tête la responsabilité des désordres qui peuvent éclater aujourd'hui. Épiphane ne s'attendait pas à cet acte de fermeté. Il ne trouva pour réponse immédiate que des invectives contre le diacre et des accusations contre l'archevêque. Mais bientôt, réfléchissant qu'il commettait en réalité une faute grave contre les devoirs ecclésiastiques, et sentant qu'il avait tort, il tourna le dos et rentra précipitamment dans sa maison. Ce premier moment de réflexion fut suivi d'un examen sincère de sa conduite depuis son arrivée, et il vit l'abîme où on l'entraînait en abusant de sa passion pour les causes théologiques. Ses luttes violentes n'étaient plus de son âge. L'affaiblissement de ses forces le lui disait assez, et il résolut de quitter Constantinople au plus tôt, sans attendre Théophile. Ce premier moment de réflexion fut suivi d'un examen sincère de sa conduite. Il était dans cette veine de calme lorsqu'une visite des longs frères lui enleva ses dernières hésitations et détermina son départ. Quelques jours auparavant, le fils de l'empereur, le jeune Théodose, étant tombé malade, sa mère, qui avait le nom d'Épiphane en vénération, fit demander à l'évêque, par un message, quelques prières pour son enfant. « L'enfant vivra, » répondit l'oracle assez rudement au messager, « si sa mère ne favorise plus, comme elle le fait, l'hérésie et les hérétiques. » Il voulait parler des longs frères. Cette dure réponse troubla le cœur d'Eudoxie. « Dieu tient la vie de mon fils dans ses mains, » s'écria-t-elle avec angoisse, « et il fera de lui ce qu'il voudra. Dieu me l'a donné, Dieu peut me le reprendre. Mais cet évêque n'a pas le pouvoir de ressusciter les morts, autrement, il aurait ressuscité son archidiacre qui lui a été enlevé il y a peu de temps. » Malgré ce raisonnement philosophique, le cœur maternel tremblait toujours et Eudoxie, faisant venir près d'elle un des longs frères, lui ordonna d'aller trouver l'évêque de Chypre et de se réconcilier avec lui. L'ordre était sans réplique. Les longs frères se concertèrent donc, prirent le chemin de la maison d'Épiphane et parurent à l'improviste devant le vieillard. Épiphane ne les avait jamais vus. « Nous sommes les longs frères, » dit l'un d'entre eux. « Ammonius et nous venons savoir de toi, Seigneur vénéré, si tu as jamais rencontré dans ta vie un de nos disciples ou lu un de nos livres. » « Jamais, » répondit Épiphane. « Eh bien, » continua Ammonius, « pourquoi nous condamnes-tu sans nous connaître? Ton devoir n'était-il point, quoi qu'on ait pu te dire, de t'enquérir par toi-même avant de juger? C'est ainsi que nous avons fait à ton égard. Nous connaissons tes disciples, nous connaissons aussi tes livres, et en particulier celui que tu as intitulé « L'encre de la foi ». Eh bien, il y a des gens en grand nombre qui ne l'approuvent pas et soutiennent que tu es toi-même hérétique. Nous t'avons défendu, les livres en main, quoique nous ne te connaissions pas. Pourquoi donc, en notre absence, sans nous interroger, sans nous avoir vus, sans avoir lu nos livres, as-tu décidé que nous étions coupables? Ammonius se tut et le vieil évêque comprit la leçon. Il causa avec ses moines honnêtes et sensés, fut content de leur réponse et bien des préventions s'effacèrent de son esprit. Ce commencement de réconciliation avec des hommes qu'il était venu poursuivre à Constantinople y rendait sa présence plus que jamais inutile. Il accéléra donc ses préparatifs de départ. Le chagrin s'était emparé de lui, le remords peut-être, comprenant trop tard qu'il avait été le jouet d'une intrigue où il avait sacrifié son repos et une partie de sa dignité. Il haïssait Constantinople, et quand il monta sur le navire qui devait l'emporter, il dit aux évêques qui l'accompagnèrent jusque-là « Je vous laisse votre vie, votre palais, vos spectacles. J'ai bien hâte, je vous assure, de quitter tout cela. » Ce furent ses dernières paroles. Le patriarche d'Alexandrie était en marche pour Constantinople. Théophile avait commencé sa campagne. Choisissant 28 évêques égyptiens signalés entre tous par leur dévotion absolue à ses volontés, il leur avait recommandé de s'embarquer dans quelques jours pour venir le joindre à Chalcédoine, où il se rendait par la voie de terre.